des associations sud-avéronaises ont leur mot à dire sur Radio Saint-Afrique. Chaque dimanche à 13h, c'est le créneau association sur Radio Saint-Af, micro ouvert pour toutes les associations du Sud-Aveyron.
La voix des associations. D'habitude, on reçoit des associations, des structures, des collectifs. Aujourd'hui, on va parler d'une initiative qui a émergé dans la tête de deux personnes, Simone Lopez et Daniel Sévrac. Daniel est ici avec nous. Daniel, peux-tu nous raconter la genèse de cette idée que tu as eue de faire venir Louis Miffon et de faire en sorte que la mairie de Saint-Afrique s'en empare ?
Eh bien, écoute, l'histoire commence à 7, hein, au Voix Vive, où Simone et moi, on se rend régulièrement, on est passionnés de poésie. Simone connaissait la poésie de Louis depuis pas mal de temps, et elle me l'a fait découvrir quand nous nous sommes rencontrés, il y a 3 ans. Et Louis s'était programmé donc cet été à 7. Et on a suivi toutes ses lectures systématiquement, on regardait le programme pour aller... Et ce qui vraiment nous a marqué, c'est sa première intervention où il disait ses poèmes du recueil « Matakiterangi » et qui était traduit en langage des signes. Et donc on en a parlé avec Louis, on s'est dit que c'était vraiment un moment très fort, qu'il faudrait retrouver cette émotion-là. Et voilà. Et puis les voix vives sont passées, et puis moi, en parlant avec Simone, l'idée a fait son chemin, et surtout de faire un jumelage entre les statues de l'île de Pâques et les statues menhirs de l'Aveyron. Et mon idée originelle, quand je suis allé voir Annie Duplouy à Saint-Afrique, c'était d'avoir la poésie, évidemment, en espagnol, en français, près des statues menhirs. Ça me paraissait une belle image. Et puis la musique, voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai demandé à rencontrer Annie Duplouy, qui a tout de suite été très très réceptive à ce projet et qui m'a donné des contacts. Et voilà, l'idée c'est finalisé.
Louis Miffon est un poète chilien né en 1942 à Valparaíso, au Chili. Le coup d'état de Pinochet, le 11 septembre 1973, l'a conduit à s'exiler en France, où il réside depuis 1974. C'est un des plus importants poètes chiliens, auteur d'une quarantaine d'ouvrages de poésie, mais aussi de romans et d'essais. Il sera à Saint-Afrique les 9 et 10 juin de cette année.
Dis-moi un secret de la terre, flamme si douce, dis-moi cette parole qu'on entend parfois, là où l'eau s'écoule, effaçant les rides des pierres.
Ce projet fou de faire venir Louis Miffon à Saint-Afrique a aussitôt trouvé une écoute attentive chez Annie Duplouy, la conseillère municipale chargée de la culture au sein de la municipalité de Saint-Afrique.
Donc, Louis Miffon est donc le poète et a écrit sur les statues de l'île de Pâques, c'est ça ?
Oui, oui.
Et donc, il y avait une correspondance intellectuelle et même et de mettre en lumière autour donc de la parole, de la musique et des lieux, parce que dans notre territoire, de la communauté des communes, il y a des statues menhirs. On croyait qu'il y en avait au château de Saint-Isère, mais il n'y en a pas. Mais il y en a à Ressac.
Samedi 9 juin à 18h à la médiathèque de Saint-Afrique, conférence animée par Michel Maillet et Louis Miffon sur les mystères des statues menhirs d'ici et leurs sœurs de l'île de Pâques. Le lendemain, dimanche 10 juin à 11h, dans les jardins de la Maison de la Mémoire à Saint-Afrique, lecture par Louis Miffon de ses poèmes sur les statues de l'île de Pâques, et toujours dimanche 10 juin à 17h, à la statue menhir numéro 2 de Somme-Courte, près du village de Ressac, non loin de Saint-Afrique, lecture en musique de Louis Miffon.
Louis, vous avez vu les statues menhirs de la région qui sont au musée Fenaille. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous faites le parallèle avec les statues de l'île de Pâques?
Mais je pense qu'on est tellement attiré par ce qu'on ne connaît pas, et surtout ce qu'on ne connaît pas nous concerne d'une certaine manière. Et nous concerne de deux manières, je dirais plutôt pour ce qu'on a enseveli. Et on se demande qui est l'enseveli, si nous sommes nous-mêmes, non? Les ensevelis.
Oui.
Dans cette histoire. Mais il y a quand même quelque chose, je dirais, que curieusement, de façon c'est un paradoxe, hein, que ce mystère est nécessaire. Et ce mystère est presque nécessaire comme une identité. Notre identité, finalement, reste, grâce au menhir, comme quelque chose d'extrêmement mystérieux. Et ça, c'est très de première humanité, on peut dire, nous approche aussi de le plus grand mystère possible, c'est-à-dire de la nature. La réponse identitaire, c'est pas à quel pays je appartiens, sinon d'où venons-nous à ce moment-là. Donc, je pense que le rapprochement avec l'île de Pâques, c'est le mystère originaire.
Finalement, les plus beaux projets, ils sont le fruit de rencontres inattendues, en fait, déjà. Oui.
Alain Fauconnier, maire de Sainte-Afrique.
Oui. C'est rarement, les grands projets, ça, c'est jamais des choses très construites, très. Okay. Hein, les celles qui arrivent comme ça par une rencontre, hein, une rencontre qui donne lieu à d'autres rencontres, qui donne lieu à. Là surgit la passion, et en fait, c'est ça qui est extraordinaire. Hein,
Derrière la garde-robe, il y a une ville à tiroirs où personne n'habite. Draps, oreillers, couvertures, dessus-dessous, trousseaux d'un fantôme enfermé dans l'armoire, nappes et serviettes en abondance, brodées d'initiales énigmatiques, d'étonnantes objets théâtraux. Tout est écrit par le corps, sans que la main droite sache ce que fait la main gauche. Les langes immaculées racontent des histoires cryptées. Près de la flamme, les taches deviennent visibles. On voit la trace de la machinerie, des effets spéciaux. Les scènes sombres du balcon, l'aveu des amoureux, les hésitations des comédiens, les soupirs des jeunes poètes, les traces de l'amour et de la haine. L'oubli n'a rien effacé. Je respire dans les draps un parfum de falaise. Je vois les vagues se briser dans les criques et les anses mouettes. Je caresse en toute liberté la peau sensuelle de l'oubli. Ses secrets dégagent une odeur de mousse, grotte, lumière et vide. Les mystères des genoux, les coins de la chambre où le soleil cache ses bijoux. Le soleil. Je respire la nudité de l'oubli. Son odeur monte à mes narines et il m'est délectable. Les langes dansent à la fenêtre, l'armoire danse avec les vents. J'écrase sur les murs les minuscules corps du délit où se cachent les temps.
Rendez-vous donc les 9 et 10 juin à Sainte-Afrique avec Louis Mison pour évoquer les mystères des statues de pierre. Le 9 juin, un samedi à 18h à la médiathèque et le 10 juin à 11h à la Maison de la Mémoire et à 17h à Reissac.
Les associations sud-avéronaises ont leur mot à dire sur Radio Sainte-Afrique. Chaque dimanche à 13h, c'est le créneau Association sur Radio Saint-Af, micro ouvert pour toutes les associations du Sud Aveyron.
Aujourd'hui, autour de la table dans la voix des associations, nous accueillons Jean-Pierre Hervas, bonjour, Madame Dany Charron et Henri Cellier, qui représentent tous les trois l'association bien connue à Sainte-Afrique, l'association Le Manifeste. Qui peut nous rappeler, vite fait, ce que c'est que le manifeste ?
Vite fait, le manifeste, comme son nom l'indique, c'est un manifeste au départ, c'est un texte. À l'occasion, en 2003, de la bataille pour sauver l'hôpital de Sainte-Afrique, Il y a une grosse mobilisation locale qui a très largement réuni ce qu'on appelle le Saint-Africain, c'est-à-dire au-delà de la population de la ville, les villages environnants de Belmont, Camarès, Mongeau, le Viala, enfin tout le cercle est assez... Bon, les gens qui s'adressent à l'hôpital, en fait. Et il y a eu une grosse mobilisation et comme la tentative des élus nationaux... Il y a une certaine constance hein, de vouloir liquider les petites structures. C'était d'opposer, en fait, l'hôpital de Millau et de Sainte-Afrique en disant, grosso modo, à Sainte-Afrique, vous allez fermer, mais c'est pas grave, il y a Millau qui est pas loin. Du coup, les gens de Millau disaient, ah, ouf, on s'en sort parce qu'on récupère. Donc, ça avait ils jouaient sur la division. Et le manifeste, c'est au sein de cette lutte, des militants de Sainte-Afrique et de Millau qui disent, il faut pas qu'on se batte en s'opposant. À un moment de cette lutte, quand le rapport de force y est, et on voit se développer des tactiques avec l'hôpital unique, c'est-à-dire, oui, on va vous maintenir vos structures, mais peut-être il faut aller vous rapprocher de Millau, parce que la première objectif qu'ils avaient, c'était un hôpital par département. Donc l'hôpital, il est à Rodez, point barre. Face à la mobilisation, ils ont joué une tactique, c'est de dire, on va leur dire au sud d'Aveyron, finalement... Allez, vous battez pas ensemble, puisque peut-être on peut vous regrouper. Alors du coup, ça a mené une division. Et il faut être clair, les médecins de l'hôpital de Millau ont clairement joué, ils l'ont affiché, le jeu de dire, eh ben oui, on pourrait avoir un hôpital, c'est logique, c'est Millau, c'est le plus gros, etc. Voilà. Et la volonté donc des gens du manifeste, c'est d'écrire un texte en disant, on n'oppose pas deux hôpitaux, la question c'est la proximité. Parce que, vu du point de vue d'un habitant de Sainte-Afrique, quelque part, Millau, c'est à une demi-heure. Mais vu du point de vue d'habitants qui sont déjà à une heure de l'hôpital de Sainte-Afrique, du côté de Belmont ou du côté de Saint-Isère, se prendre une demi-heure de plus, c'est une heure et demie carrément, hein, plus la traversée de Sainte-Afrique. Donc c'est effectivement plus tout la même chose. La proximité n'y est plus. Les textes, rappelons-le, disent quand même qu'il faut 45 minutes pour un citoyen en France pour être près d'une maternité et 30 minutes pour les urgences. Donc on est déjà plus... dans ce critère-là, vu la densité de population, nous dit « ouais, mais c'est les zones noires qu'ils appellent ça, ou blanches, ça dépendait comment... » Là-dessus, bon. Donc le manifeste, c'était de dire « non, on ne se divise pas, on défend ces deux hôpitaux parce qu'on défend la proximité. Millau, ça dessert du côté de la Lozère, Sainte-Afrique, ça dessert du côté de la Montagne Noire, de Belmont, et donc on a besoin d'un équipement de proximité. » Cette espèce de fuite en avant en disant « ouais, mais peut-être si on acceptait un petit peu de se regrouper, on va peut-être sauver. » En fin de compte, la véritable logique, elle est financière. C'est-à-dire où politiquement on dit il y a besoin et politiquement au sens de on fait société quoi. Dans une société on a besoin à proximité d'outils de santé parce qu'on est sur un territoire où on a la sécu, on a une égalité qui est affichée pour les citoyens. Ou alors on abandonne ce point de vue et on commence à rentrer dans une négociation financière. Et effectivement, là, c'est clair, ce sera Rodez et Montpellier et rien d'autre.
D'accord. Et on est aujourd'hui dans cette négociation.
Et on est toujours dans ce débat-là. On est toujours dans ce débat-là. Et donc le manifeste s'est créé pour ça. Donc le nom du manifeste, ça vient de ça. C'est au sein de cette lutte, on ne se divise pas, Millau Saint-Af, on se bat pour la proximité, les deux.
Voilà. Et la position des deux municipalités?
Alors les municipalités changent, les politiques, pas beaucoup. De ce point de vue, les deux municipalités ont toujours affiché. Une priorité à défense de leur hôpital, c'est-à-dire Sainte-Afrique défendant Sainte-Afrique, Millau défendant Millau, mais on ne peut pas dire que les municipalités, et en tout cas de manière ouverte, alimentaient une guerre entre les municipalités. Bon, quand il y avait le PS à Millau, ils n'allaient pas se faire la guerre avec le PS à Saint-Af, et même aujourd'hui, c'est parce qu'on a un député, député LR Viala, il est député de Sainte-Afrique et de Millau, du sud d'Aveyron, quoi. Les politiques ne jouent pas... à alimenter une espèce de... un peu comme ils font sur les immigrés. Bon, sur les immigrés, les politiques mettent toujours un peu d'huile sur le feu. C'est moins le cas sur la question des hôpitaux. Mais en réalité, la politique qu'ils soutiennent, c'est toujours une politique de... Mais on peut pas faire autrement, quoi. Financièrement, il n'y a pas les moyens. On ne discute pas du choix où sont mis les moyens. On dit, il n'y a pas les moyens. Et après, on vous dit, comment vous vous démerdez. Et y compris les médecins et le personnel soignant est très, très pris dans cette pression permanente. Et ça, c'était déjà à l'époque. Le cas, c'est encore aujourd'hui beaucoup le cas. Avec un système, c'est une présentation objective. Donc on nous dit toujours, ah mais vous n'avez pas assez de naissances, donc la maternité ne peut pas durer. Et alors, si tu n'as pas 300 naissances, on te dit, ah mais ta maternité n'a pas lieu d'être. Bon, pourquoi? Alors, financièrement, ça peut se comprendre, parce qu'effectivement, la rentabilité d'un investissement, là, mais comme ils osent jamais dire ça, les choses clairement, ça, c'est marqué, mais c'est dans les rapports un peu internes du ministère. Après, quand ils font de la communication, ils disent pas ça. Ils disent, ouais, mais alors, quand on fait pas suffisamment d'accouchements, il y a des risques de sécurité. On n'a pas vu pour le moindre document là-dessus. Et à travers la France, on ferme des maternités où il y a 600 ou 700 accouchements maintenant. Parce que, simplement, on veut regrouper avec celle d'à côté pour des questions de rentabilité, d'investissement financier. Donc, pour l'instant, on nous met, et les politiques sont vachement là-dessus, c'est... Mais non, mais ça, c'est pas un débat politique, c'est on n'a pas le choix. C'est, donc, il n'y a pas de débat s'il n'y a pas de choix. Hein ?
L'actualité du manifeste est riche, puisque dans le progrès de cette semaine, il y a un courrier que vous avez rédigé le 28 mai, interpellant les élus sur une position qui devrait prendre, les élus du département, qui devait prendre le 1er juin. Nous sommes le 5, donc dites-nous un petit peu de quoi il s'agit et de quoi il en retourne.
Alors... La politique de santé, elle part en fait du budget de la Sécu en France. Bon, alors si on va à l'échelle de la mondialisation et de l'économie mondiale, elle part aussi d'orientations qui sont prises dans le cadre de l'OMC, etc., comme tous les services publics, très menacés par la recherche de rendements financiers pour les placements. Ce qui dirige l'économie aujourd'hui, c'est que les placements de ce qu'on appelle les fonds de pension, toutes ces choses-là en particulier, donc la capitalisation des retraites, donc... le capitalisme financier, quoi, trouve où se placer. Et il y a quand même 30% de l'économie mondiale qui est composée de services qui ne leur rapportaient rien puisqu'ils étaient publics et que, voilà, il y avait une péréquation, etc. Donc ça, il y a ce fonds économique, il est partout. Après, il y a la politique de la Sécu. Ils fixent un budget tous les ans. Ils disent, bon, il faut diminuer les dépenses de santé. Alors maintenant, ils ne disent pas qu'il faut les diminuer. C'est-à-dire, ils disent, ils les diminuent ou ils les maintiennent. Là, on est actuellement dans une phase où ils maintiennent. Mais maintenir, ça veut dire qu'avec la croissance de la population et avec le vieillissement de la population, donc l'apparition de pathologies nouvelles, avec les évolutions techniques qui font aussi qu'on soigne des choses qu'on ne savait pas soigner avant. Quand on maintient les frais de santé, donc le budget de la Sécu, on diminue par tête d'habitant l'argent qui est voué à la santé. Et donc, dans ce contexte-là, il y a des politiques régionales qui sont adaptées par les agences régionales de santé. Et leurs objectifs à elles, c'est de faire coller les objectifs d'économie, appelons un chat l'austérité, hein, sur la santé, de l'adapter au niveau de chaque région. Et on a à l'heure actuelle un plan pour 4 ans, 2018-2022, qui est concocté par l'agence régionale de santé, qui est une antenne du ministère, et sur lequel... Des instances politiques sont amenées à donner un avis.
Alors, uniquement un avis consultatif.
Exactement.
Pareil pour les hôpitaux, ils peuvent donner un avis consultatif.
C'est-à-dire, vous donnez votre avis.
Voilà. Mais elles ne sont pas obligées d'en tenir compte.
Vous dites, ça ne va pas du tout. C'est, par exemple, le Lot a dit qu'ils étaient complètement contre. Oui. Ça s'appliquera pareil dans le Lot. C'est-à-dire que l'avis est un élément dans un rapport de force éventuel au niveau des populations, parce que c'est quand même important de savoir ce que pensent ces élus, ce qu'ils disent, quelles analyses ils ont. Mais ça, d'un point de vue institutionnel, c'est intéressant, on peut en causer, voilà, mais ça ne change à rien. L'ARS a sa politique et elle ne changera que si cet avis débouche sur une mobilisation.
Et alors, quel a été l'avis le 1er juin de ces conseillers départementaux aveyronnais? Est-ce que tu veux qu'on le détaille par les points comme ça ou alors globalement?
Alors d'abord, ils n'ont répondu à aucun des points qu'on a soulevés dans notre...
Ah d'accord, vous aviez soulevé les fermetures de maternité en évoquant celle de Decazeville, la création de services de médecine ambulatoire et d'autres points, quoi, hein, les services d'urgence, etc.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est un document de 350-400 pages, hein, le plan régional de santé, qui est composé de pas mal de... Alors, il y a d'abord des espèces de... une philosophie générale. Il faut s'occuper des vieux aujourd'hui, l'autonomie, c'est important. Enfin, c'est de la com. Alors, sous la com, il y a des contenus. Mais il faut déchiffrer, quoi. C'est toujours des lectures au troisième degré. Et comme nous, on n'a pas trop ni la spécialité, ni le temps de d'éplucher tous ces machins-là. Et puis, en plus, on est toujours sujet à se dire, ouais, il dit ça, on en reparlera tout à l'heure à propos de la communication gouvernementale. Oui. Mais voilà, on est dans l'interprétation. Et là, on s'est dit, bon, pour être objectif, nous, ce qu'on prend, c'est les tableaux chiffrés. Et on a pris les tableaux chiffrés. Et pour le département de l'Aveyron, on a pointé une série de choses qui sont fermeture d'une maternité. Avant, ils voulaient en fermer deux dans le précédent plan. Decazeville et Saint-Afrique, ils disaient. Decazeville ayant fermé, maintenant, il y a marqué, il faut en fermer une.
Aïe.
Ils disent pas laquelle. Ah, on n'est pas tout à fait idiot. Bon. En tout cas, voilà. Donc, on sait que ça veut dire qu'ils veulent fermer et en tout cas qu'ils menacent très fortement le Sud-Aveyron. et probablement Sainte-Afrique. Ce n'est pas écrit, on va dire, ah, vous... bon. Ils ont des objectifs comme ça. Donc, ils disent sur les urgences, par exemple, ils disent sur les urgences, on va maintenir les urgences. Sauf que, aujourd'hui, les urgences, il y a un problème de sous-effectif en médecins, en personnel, etc. Si, dans la case effectif, il n'y a pas du plus, on ne maintiendra pas les urgences. Donc, voilà, on a pointé, nous, on a été sur les tableaux. Et pour en revenir à votre question sur l'avis du département... Oui. Eux, ils ont plutôt travaillé sur les orientations. Donc, bon, ils se félicitent que la région s'intéresse à l'autonomie des personnes âgées, etc. Et tout. On peut se féliciter de ça aussi, hein, c'est pas la question. Et puis après, il y a une petite phrase qui dit « Il est dommage qu'on ne voie pas les moyens ». Voilà. C'est-à-dire que, globalement, l'avis du département, si vous le lisez sur la petite phrase de fin qui dit on est d'accord avec tout ce que vous dites, mais il n'y a pas les moyens », c'est un avis négatif. Mais enfin, non, parce qu'il dit « c'est bien, vous avez de bonnes orientations, on s'occupe ». Mais voilà. Donc, c'est un avis un peu déroutant pour une association d'usagers qui est habituée à Paris concret.
Mitigé, oui.
C'est, voilà, c'est...
Ouais. Politique, un avis politique.
C'est un avis, voilà, qui est un peu... Alors, je ne sais pas comment qualifier génétiquement cette affaire, mais ils ont... voilà, c'est un avis qui ne mange pas de pain, ils n'ont pas le droit. Et très concrètement, alors en plus, ils ont fait un deuxième choix, c'est qu'ils se sont beaucoup prononcés sur les aspects qui concernent plus directement la responsabilité du département. Par exemple, sur la question des maternités, etc. et tout, le département est en charge des PMI, protection maternelle et infantile, ils ont regardé ces passages-là. Ce n'est pas forcément anormal qu'ils regardent plus ça. Et donc, ils se félicitent qu'il y a un certain nombre de choses qui soient dites là-dessus, tout en disant qu'il n'y a pas beaucoup de moyens qui sont mis. Et par contre, ils ne disent pas un mot sur la fermeture de maternité. Parce que comme ce n'est pas de leur domaine directement, manifestement, ils sont passés à côté de choses comme ça. Bon, voilà. Ça vient de tomber aujourd'hui. On a pour habitude de réunir notre association pour analyser les éléments et donc de faire un truc un peu collectif. On est plutôt insatisfait de ce texte parce qu'il n'éclaire pas vraiment les citoyens, puisque ça n'est qu'un avis, ce qu'on conseillait petitement à notre niveau aux élus, c'est du fait qu'ils n'avaient pas de pouvoir de décision, c'est que leur avis soit quelque chose qui permette aux citoyens et aux habitants de rentrer dans le débat, de comprendre l'articulation qu'il y avait entre les moyens nécessaires dans les hôpitaux publics, la médecine générale, etc. et tout, et qu'ils servent une sorte de pédagogie, en fait. Il est malheureusement un texte politique un peu classique que personne ne lira, quoi.
D'accord.
Monsieur Hervas, Monsieur Cellier, Madame Charron, pour les gens qui nous écoutent, quel est l'avenir, en quelques mots, de l'hôpital de Sainte-Afrique? Vous croyez vraiment qu'il va rester? Est-ce qu'il va y en avoir un entre les deux? Est-ce qu'il va y avoir que Millau, un gros truc? Je sais pas, pour parler clair.
Nous, on lâchera pas, sachant qu'on sait que pour réhabiliter Sainte-Afrique correctement, il faut 15 millions d'euros. Pour Millau, c'est 25 millions d'euros. Et pour en faire un, c'est 250 millions d'euros.
Ah oui, ça parle tout seul, quoi.
Cherchez l'erreur.
S'ils veulent faire un hôpital médian, je pense qu'ils ne vont pas trouver l'argent pour le faire. C'est rien que l'heure pour faire croire aux gens qu'il va y avoir un hôpital tout neuf entre Millau et Sainte-Afrique. Et pour moi, c'est que l'heure.
Donc ça veut dire qu'ils jouent l'usure. Hein.
Voilà.
Ils jouent l'usure parce que ils pensent que les opposants vont se fatiguer avec ce genre d'annonce, quoi, et qui finiront par gagner.
Pas nous.
Pas vous. Ben, c'est super. Alors, justement, ce matin, sur France Inter, aux informations, on annonce, et peut-être que vous l'avez écouté avec une oreille plus pointue que moi, mais de mémoire, c'est un rapport de l'assurance maladie qui préconiserait qu'il y ait des créations d'hôpitaux de proximité. Mais c'est pas tout à fait ça.
Le gros problème de santé identifié aujourd'hui, on vous parlait notamment des recherches médicales et puis du vieillissement de la population, c'est ce qu'on appelle les maladies chroniques. C'est-à-dire des maladies où il faut qu'il y ait un suivi important des patients, pas forcément pour des grosses opérations. Le système de santé des hôpitaux a été structuré autour des grosses opérations importantes, la chirurgie, etc. Aujourd'hui, apparaît de manière très nombreuse et dominante des pathologies qui sont des maladies du soin continu. que ce soit sur des cardiaques, des cancers, etc. Donc des soins sur longue durée pour des pathologies graves, mais qui sont plutôt dans le suivi. Il y a un moment avec une intervention forte, etc. Et tout. Puis après, il y a un suivi important qui doit se faire quand même par des établissements un peu spécialisés avec un certain nombre d'outillages, mais qui est dans la durée. Et il y a ce premier élément. Deuxième élément, on découvre que nombreuses maladies, notamment celle-là, il y a un élément de prévention très important. C'est-à-dire un élément d'être capacité d'analyser assez tôt pour enrayer le diabète, par exemple. Enrayer assez tôt, c'est pas dramatique. Le cancer, enrayer assez tôt, c'est pas dramatique. À condition qu'on ait les outils de proximité. Parce que, et là, tous les raccords concordent, sans proximité, on va pas se faire un examen à Montpellier si on a un doute. Bon, si on est à une demi-heure, on peut y aller. Aller faire cet examen. Le médecin vous dira, bah, écoutez, ça serait peut-être bien de faire une radio, aller voir. Bon, c'est pas loin, ça va. S'il faut prendre un rendez-vous chez un professeur à Montpellier, bon, c'est pas la peine, 6 mois plus tard, voilà. Donc, la proximité est un élément important de la prise en charge des problèmes de santé d'aujourd'hui. Et donc ça, la Sécu est obligée de le ressortir parce que, y compris des professeurs, des directeurs d'hôpitaux, tout le monde le reconnaît. Alors il y a ça, et en même temps, il y a toujours ce fonds économique que j'évoquais sur la question de la santé. Et donc il y a un rapport qui sort aujourd'hui. Alors pour l'instant, ce rapport, nous ne l'avons pas vu. Il est probable que ce week-end, on a une réunion nationale de la coordination de tous les comités qui défendent les hôpitaux et maternités. On a des gens très bien placés qui auront sûrement récupéré le texte. Donc, on va l'analyser ensemble. Bon, nous, tous les trois, aucun de nous n'est médecin. On n'est pas du corps médical particulier. Donc, on est des usagers. On est des malades normaux, quoi. Bon.
Malades normaux.
Voilà. Donc, on va analyser le texte avec des gens qui savent un peu plus regarder les choses, y compris des comptables et des financiers de la Sécu. Ce que l'on a, pour l'instant, c'est un élément de communication. On a des journalistes de France Inter, une radio qui, notamment au moment de ses bulletins d'information, est quand même limite propagande. Enfin, c'est quand même un peu lourd. Mais bon, là, on a quelqu'un qui nous dit « Ouais, ils vont rouvrir 250 hôpitaux de proximité. » Ah, fantastique. Enfin, on se dit « Tiens, enfin... » On est peut-être des gens qui pensent à mal tout le temps. Tant mieux si ça se fait. Hein. Si ça pouvait se faire, on n'a aucun problème parce qu'ils commenceraient par ne pas fermer cela. Bon. Mais on va y regarder de plus près parce que ce qu'il peut y avoir derrière, c'est en fait une des choses qu'on craint qui se passe à Sainte-Afrique, c'est-à-dire de fermer l'hôpital, c'est-à-dire en fait une série de... Il y a un bloc, il y a une capacité à soigner rapidement, intervenir. Il y a une maternité, ce qui veut dire qu'en cas de pépin, il y a derrière des chirurgiens obstétriques qui peuvent prendre derrière s'il y a un coup dur. Si ça se passe bien, il suffit d'une sage-femme. Mais l'hôpital, c'est le coup dur, on peut le prendre en charge. Et donc, le risque, ce serait de fermer ces éléments de prise en charge des coups durs et donc de ne plus avoir un hôpital, mais d'avoir une sorte de maison de santé avec des fonds publics, pour des médecins libéraux généralistes, avec un peu plus d'outils de mise en commun, ce qui est une bonne chose. On est pour une maison de santé, nous, mais en complément de l'hôpital. Parce que si on nous transforme les hôpitaux de proximité en simplement des grandes maisons de santé, ça veut dire que pour l'hôpital, c'est Montpellier.
Oui.
Donc, attendons de voir ce qu'il y a dans ce rapport gouvernemental. On craint un peu que ce soit de la com. Quand on veut vraiment informer, on donne des éléments. Quoi. On ne balance pas un truc comme ça. Donc, on va voir ce qu'il en est. Tant mieux, ce qui est positif pour nous, c'est que tout le monde reconnaît que la proximité, c'est un vrai problème. Et là, c'est notre argument principal. Nous, on n'est pas à tout prix pour... C'est pas parce qu'il y a Saint-Taf, parce qu'on n'habite pas loin, etc. En plus, moi, j'habite à Montjour, en ce qui me concerne, je suis à la même distance des deux hôpitaux. Le problème, c'est que pour que la population ait un droit à la santé, il faut cet élément de proximité. Et maintenant, il s'est reconnu. Par contre, la réponse qui est donnée, on va attendre de voir concrètement ce qu'il y a. Parce que ça peut être tout à fait de la com. Et compte tenu de l'actuel gouvernement, c'est des DRH, tous ces gens-là, quoi. C'est du manager avec un baratin pas possible. Attendons de voir ce qu'ils ont fait, et c'est loin d'être gagné. Ceci étant, ce qui est gagné pour nous, c'est que la proximité devient reconnue comme un élément déterminant.
Super, merci à tous les trois pour tous ces éclairages et ce repositionnement. Et puis on espère pouvoir vous recevoir à nouveau ou vous lire prochainement dans les médias par rapport à ce mémoire-là. Hein ? Merci beaucoup, Monsieur Hervaz, Monsieur Célier, Madame Charron.
Merci.
À bientôt.